de fou dans les textes.
Les historiens et analystes affirment qu'il est difficile de savoir combien de mesures prises par Trump dès le premier jour, plus d'une centaine selon ses responsables, seront respectées si elles sont contestées sur le plan juridique.
Et voilà, le décor est planté. Merci bien, Yacouba. Il est l'heure maintenant d'accueillir à nos invités, via Skype de Paris, Sadio Morel-Kanté, chercheuse associée à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, de Kensington, dans l'État du Maryland, Amadou Cissé, ancien économiste de la Banque mondiale et membre du conseil d'administration de cette institution à la retraite, et depuis Yaoundé, docteur Samuel Ngembok, enseignant permanent à l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Il est également enseignant associé à l'IRIS, l'Institut français des relations internationales et stratégiques. L'âge d'or de l'Amérique commence aujourd'hui. Amadou Cissé, comment interprétez-vous cette déclaration de Donald Trump? Quel message clé a-t-il voulu transmettre aux États-Unis et au monde?
Bonjour Jacques. Donald Trump a voulu envoyer un message clair à l'Amérique et au reste du monde que l'Amérique est sa priorité. Alors l'Amérique est sa priorité et tout le reste est variable d'ajustement. Alors donc voilà le message, voilà les ondes de choc que cela envoie. Tout le monde se sent plus petit, tout le monde se sent pas priorisé. C'est les États-Unis qui sont priorisés et évidemment il y a le risque de polarisation à cause de cela. Je prends l'exemple de l'Europe, on dira à l'Europe, vous vous souciez de votre sécurité? Eh bien, achetez des armes américaines. On dira à l'Europe, vous vous souciez de votre prospérité? Eh bien, payez des taxes plus élevées et ajustez-vous, faites des concessions. Voilà le message qui est envoyé. C'est un message de polarisation.
Sadio Morel-Kanté, que signifie le retour de Donald Trump pour les relations entre les États-Unis et les pays africains en termes d'aide, de commerce et de coopération sécuritaire?
En tout cas, Donald Trump vient d'envoyer un signal très fort qui doit interpeller beaucoup d'Africains qui dorénavant devront se retourner sur l'Afrique parce que n'oubliez pas que nous avons les ZECA et les zones libres de libre-échange entre Africains promues par l'Union africaine qui devrait rendre autonome parce que ce n'est pas les matières premières qui rendent riches. Mais c'est la transformation qui rend l'économie forte et sans cette force-là, on a beau créer sa souveraineté, on voit bien qu'on n'est pas souverain tant qu'on n'a pas une économie forte et que Trump peut dire qu'il est souverain parce qu'il donne le temps, il impose un rythme à tout le monde. Alors les souverains de propagande, je crois qu'ils vont se faire tout petits et je crois que c'est tant mieux pour l'Afrique et il faut que l'Afrique commence maintenant à se débrouiller toute seule alors qu'on sait que Trump, l'Amérique a bien investi pour son budget de 2024 quelques 7 milliards de dollars, un peu plus de 7 milliards de dollars dans beaucoup de programmes, que ce soit entre pays multilatérales, bilatérales et dans des institutions internationales qui vont avoir cours, qui seront utilisées pendant 2025. Mais il faudrait qu'après, les Africains se retournent sur eux pour travailler pour eux et avec eux-mêmes. Sinon, je crois que le continent va disparaître si on doit toujours tendre l'aide. Et aussi savoir que, je ne sais pas si l'aide de 1 milliard de dollars accordée aux sinistrés des sécheresses faites par Biden à l'Angola pourra toujours être utilisée ou si Donald Trump va le supprimer, je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, il y a un programme en cours qui pourra effacer ou pas, mais que les Africains commencent à se prendre en charge.
Le nouveau secrétaire d'État américain Marco Rubio a par le passé adopté une posture ferme vis-à-vis de la Chine et de la Russie. Samuel Ngembok, peut-on s'attendre à un regain d'intérêt des États-Unis pour l'Afrique afin de contrer l'influence de Pékin et Moscou sur le continent?
Clairement, je pense que le regain d'intérêt est déjà là et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je pense que si on fait un regard prospectif, on verrait très bien que, quelle que soit l'administration qui aurait pu diriger les États-Unis d'Amérique, on aurait abouti au même résultat. Juste peut-être quelques chiffres pour montrer ce regain d'intérêt. Il faut quand même souligner qu'en 2021, le déficit commercial des biens des États-Unis envers les pays d'Afrique au sud du Sahara était de plus de 11 milliards de dollars. et que en 2024, ce regain d'intérêt était déjà d'actualité, c'est-à-dire que l'on a observé en 2024 plus de 547 accords commerciaux qui ont été signés entre les différents partenaires, avec une enveloppe estimée à plus de 14 milliards de dollars. Donc, on voit très bien que la politique étrangère des États-Unis envers le monde, et particulièrement envers l'Afrique, ne change pas radicalement. On peut peut-être observer une différence en termes de sémantique, en termes de terminologie, mais sur le fond, la stratégie et la politique étrangère restent la même depuis 1945. C'est-à-dire contrôler, dominer, renforcer la position de puissance ou de superpuissance des États-Unis par rapport aux autres.
Nous le disions plus tôt, dès son premier jour au pouvoir, Donald Trump a donc paraphé une avalanche de décrets, notamment concernant l'aide américaine à l'étranger, le climat et l'immigration. Il a ainsi déclaré l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique. Amadou Cissé, brièvement, quelles implications ce décret a-t-il pour la politique migratoire des États-Unis ?
Bon, un impact délétère, non seulement pour les États-Unis, mais pour le reste du monde. D'abord, le message envoyé au reste du monde, tous ces pays dont les ressortissants sont aujourd'hui menacés de renvoi. Alors, ils ont le message clair que les rentrées, disons, de fonds, les devises et consorts qu'ils ont par ces travailleurs ne vont plus venir. Et sur le plan politique, qu'ils ne sont plus des partenaires privilégiés des États-Unis. Alors, sur le plan intérieur, ces travailleurs qu'on menace de renvoyer massivement, évidemment, c'est au niveau de la rhétorique, parce que quand nous regardons les structures économiques des États-Unis, cela ne va pas aller sans problème, notamment dans le domaine de l'habitat, je veux dire des constructions, non seulement dans le domaine aussi de l'agriculture, voilà, et tout ceci risque d'avoir un impact très très défavorable sur l'inflation, sur les prix alimentaires et peut-être même les prix énergétiques. Et n'oublions pas que Donald Trump est venu au pouvoir à cause d'une coalition multi-ethnique, multi-background et tout ça. Et que son agenda économique doit non seulement satisfaire MAGA, America First, mais aussi satisfaire tous ces travailleurs immigrés et tous les pays qui ont des rapports avec les États-Unis. Voilà ce que je peux dire à ce stade.
D'ailleurs, à ce propos, les réactions n'ont pas tardé. Une coalition d'États démocrates américains ont dit vouloir porter plainte contre le décret remettant en cause le droit du sol garanti selon eux par la Constitution du pays. Mais pour la Maison-Blanche, ces actions judiciaires ne sont rien d'autre qu'une extension de la résistance de la gauche radicale, et l'administration Trump est prête à les affronter devant les tribunaux. Sergio Morel, quand est le retrait de Washington des accords de Paris sur le climat et de l'Organisation mondiale de la santé marque-t-il une rupture nette avec l'administration précédente? Quelles peuvent en être les répercussions sur la scène internationale et sur la position des États-Unis dans le monde? Brièvement, si vous pouvez.
Oui, l'Amérique est grand contributeur hein, de tout le temps de ces institutions-là, va retirer ses fonds, mais en faisant du mal à l'humanité. Même si cela va renflouer les caisses américaines, ça fera du mal à l'humanité. Et le prétexte de Donald Trump, c'est un problème personnel avec lié à la gestion de la Covid. Est-ce qu'on doit gouverner par vengeance et faire du tort à l'humanité parce que on se sent peut-être comme quelqu'un qui a tous les droits sur tout le monde à tout moment? Je crois qu'à un moment, il risque de faire que les gens vont rendre puissants d'autres partenaires et contourner l'Amérique justement, et la résilience des uns et des autres risquera justement d'affaiblir les États-Unis si Trump continue dans sa politique isolationniste et trop protectionniste.
Ouais. Il a tout de même invoqué le financement des États-Unis quant à ces organisations. L'Union africaine se dit d'ailleurs concernée par le retrait annoncé des États-Unis de l'OMS, tout en espérant que le président Trump reconsidérera sa décision selon un communiqué publié mercredi. Samuel Gembok, avec le retrait des troupes l'Europe française du Sahel et l'influence grandissante de la Russie en Afrique, quel rôle l'administration Trump pourrait-elle jouer dans la lutte contre le terrorisme sur le continent? Entrevoyez-vous un renforcement ou au contraire un désengagement de la coopération sécuritaire américaine?
Je ne vois pas un désengagement. Il peut être tactique, c'est-à-dire que l'on peut faire un retrait tactique. En stratégie, on parle de vide stratégique. Laisser un peu les acteurs qui émergent exprimer leurs forces et observer leurs faiblesses, et ensuite s'appuyer sur les faiblesses, et ensuite revenir avec beaucoup plus d'expérience et d'expertise. Je pense que le prisme à partir duquel on doit apprécier les questions sécuritaires sur le plan sur le continent africain et par rapport à cette nouvelle administration, c'est de voir d'abord la configuration géopolitique internationale actuelle. C'est-à-dire que le fait que les pôles régionaux, les puissances régionales, que ce soit la Russie, la Chine ou l'Inde, l'idée est de faire en sorte que tout le monde essaye d'abord prioritairement et stratégiquement de s'occuper de son étranger proche. La Russie a un voisin qui limite sa capacité à se projeter à l'extérieur comme cela a été initié au cours de la dernière décennie. Et donc, je pense que le fait que l'Alliance des États d'Israël ait mis en place une force unifiée de 5000 hommes pour lutter contre le terrorisme est une initiative qui permet d'anticiper un peu les conséquences dramatiques qui pourraient être liées aux conséquences liées aux tensions diplomatiques et militaires que l'on observe à l'échelle du monde actuellement. Donc, je pense qu'il y a un regain, mais un regain stratégique qui va s'opérer de façon très prudente, mais aussi avec beaucoup d'emphase sur l'observation et l'infiltration des dispositifs de sécurité mis en place.
Ouais. Chers invités, et vous aussi, chers amis fidèles de la VOA, s'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. La suite de Washington Forum, ce sera après cette courte pause. Merci.
Tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day.
Dans des Full B, braque ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis.
Dans des Full B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change.
Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité.
Dans des Full B en FM, ondes courtes, sur la fréquence 17 630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique.
Dans des Full B de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day.
Washington Forum, édition du jeudi 23 janvier 2025. Donald Trump, acte 2, après son premier mandat entre 2017 et 2021, le républicain a été investi lundi dernier à 78 ans, président des États-Unis pour la seconde fois, succédant au démocrate Joe Biden. Et maintenant, des extraits de commentaires à Facebook. Alphonse Mouaki, Kinshasa, RD Congo. L'Afrique n'a rien à espérer de l'Amérique sous Trump. Archiduc Théodore N'Djamena, Tchad, le retour triomphal de Donald Trump sera axé sur la lutte contre l'immigration illégale, les partenariats avec les alliés fidèles et l'ouverture vers l'Afrique du continent qui, ayant assez de ressources autour desquelles la Chine et les Occidentaux se font la guerre, bien que cette même Afrique soit parfois ignorée par Donald Trump. Et il y a Omar Selin Kofi, Abidjan, Côte d'Ivoire, le président Donald Trump n'a jamais accordé une place de choix à l'Afrique dans sa politique étrangère. Nos États croient croise les doigts pour le maintien de l'AGOA et surtout la poursuite des partenariats équilibrés entre le pays de l'Oncle Sam et notre continent. Et sans plus tarder, nous retrouvons nos invités de Paris, la chercheuse Sadio Morel-Kanté. En tant que journaliste, elle a notamment travaillé pour la BBC, de même que pour les agences de presse Reuters et EPI, via Skype de Kensington, Maryland, à Amadou Cissé, analyste et économiste, ancien haut cadre de la Banque mondiale. Et de Yaoundé, Dr Samuel Gembok, directeur général de Thinking Africa Cameroon et enseignant associé à l'IRIS, l'Institut français des relations internationales et stratégiques. Alors, Yao Marcela Kofi me tend la perche, Amadou Cissé. Comment les pays africains, notamment ceux bénéficiant de l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act, sont-ils susceptibles d'être impactés par un éventuel réajustement des accords économiques sous la nouvelle administration américaine? Amadou Cissé qui va nous rejoindre dans un petit moment. Sadio Morel-Kanté, donc cette question concernant l'AGOA, en quelques mots, que pouvez-vous nous dire?
Ben, ce sera aussi un manque à gagner pour les Américains qui sont habitués à cette transaction qui fait qu'on a des produits exotiques d'autres pays, même si c'est aussi destiné à la diaspora américaine, mais africaine de là-bas. Mais aussi, ça va faire une perte pour les commerçants locaux, ceux qui ont vu leurs produits entrer sur le sol américain par ce programme-là pendant tant d'années, voire que cette transaction va être mise à mal. Mais comme je l'ai dit tantôt, je pense que c'est l'occasion pour l'Afrique de se concentrer maintenant sur elle-même et de pouvoir faire émerger un commerce sud-sud qui pourra, je pense que faire en sorte que plus tard avec les excédents, surtout par le développement de l'agriculture, avec les excédents développés et passer par les matières premières agricoles pour enfin renforcer les matières premières minérales qui, sorties, évacuées en brut, ne rapportent rien à l'Afrique. Je crois que c'est le moment, pendant déjà dès à présent, les Africains sont en train de réfléchir à leur résilience et il le faut vraiment parce qu'un continent à la remorque, un continent où les coups d'État sont perpétrés parce que justement l'économie est faible, ne peut pas émerger. Beaucoup de pays africains ont parlé de l'émergence d'ici 2025. Je crois que c'est l'occasion de se donner un nouveau cap et d'être réaliste cette fois-ci, à mener à bien ces programmes-là sans l'aide exogène.
Amadou Cissé, la politique America First, l'Amérique d'abord, est de nouveau mise en avant. Comment cette approche va-t-elle influencer les relations commerciales et diplomatiques des États-Unis, notamment avec leurs alliés aux quatre coins du globe, dont l'Afrique, bien évidemment?
Voilà, donc j'ai déjà parlé du risque de polarisation. Et il nous faut parler aussi des aspects positifs, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé de Trump 2.0. Il faut dire d'abord qu'il apporte de la clarté. Personne n'a de... Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qu'il veut faire. Donc, la clarté. Il l'a annoncé pour l'arrêt de la guerre en Ukraine et peut-être à Gaza. On a même vu un résultat, un accord déjà avec le Hamas. Clarté aussi sur la politique de genre, l'homme et la femme, ça c'est une clarté. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des émotions, mais de la clarté. Et ensuite, il avait annoncé drill, baby drill, c'est-à-dire que l'Amérique va beaucoup exploiter le gaz de schiste, ainsi de suite. Donc, ce que cela envoie à la communauté internationale, c'est que l'Amérique sera forcément centrée sur elle-même, et à l'intérieur de l'Amérique, elle sera centrée sur ceux qui sont les plus visibles. Par exemple, on a vu Elon Musk et puis certains de ses amis. Donc, on craint une sorte d'oligarchie ici, qui a même des relents de plutocratie. Donc tout ceci envoie des messages sans ambiguïté au reste du monde et annonce des relations internationales qui seront mouvementées, qui seront, disons, marquées vraiment par des épisodes assez forts.
Oui.
Alors, un dernier point sur le plan économique, J'avais déjà mentionné les forces tectoniques qui ont prévalu à la victoire de Trump, c'est-à-dire la montée des prix alimentaires, la montée des prix de l'énergie. Alors tout ceci va se traduire sur le plan international par des actions visant non seulement à apaiser, disons, ces forces tectoniques à l'intérieur, mais en développant sur le plan à l'international des forces qui seront complémentaires à cet apaisement-là. Donc, en me résumant, l'arrivée de Trump signale une détérioration, sans doute, des relations internationales parce qu'il y aura une polarisation.
Oui.
Donc, voilà ce que je vais, sur lequel je vais.
Oui, d'ailleurs, certains dirigeants évoquent un certain sursaut provoqué par Donald Trump. Par exemple, pour Katia Kallas, la chef de la diplomatie européenne, le président Trump a raison de dire que l'Union européenne ne dépense pas assez sur la défense. Les dirigeants français Emmanuel Macron et allemand Olaf Scholz promettent de leur côté une Europe forte face au défi, selon eux, que va représenter l'Amérique de Donald Trump. Évidemment, donc, il y a cet appel au sursaut en Europe, notamment. Le nouveau président américain menace la Russie de sanctions si elle ne trouve pas d'accord maintenant avec l'Ukraine pour mettre un terme à la guerre, au moment où le patron de l'ONU, Antonio Guterres, salue ce qu'il appelle la large contribution de Donald Trump à la trêve obtenue entre Israël et le Hamas palestinien à Gaza. Samuel Gembok, comment analysez-vous ces derniers développements sur ces deux fronts, notamment la guerre entre la Russie et l'Ukraine et puis cette trêve à Gaza, en lien avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche?
Je pense que c'est la réaffirmation de la superpuissance américaine qui s'incarne à l'observation de tout ce qui se passe, que ce soit dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne ou dans le cadre de la guerre entre Israël et la bande de Gaza. En fait, les alliés des uns et des autres se rendent bien compte qu'il y a un nouveau chef qui est sur la scène. Et donc, il a un ton, il est imprévisible, c'est quelqu'un qui annonce ce qu'il va faire, et quand bien même il annonce ce qu'il va faire, si les conditions ne sont pas réunies et que les règles du jeu ne sont pas claires, il peut, par préemption, agir comme il l'a fait dans le cadre de la crise syrienne, où il a bombardé les positions de l'armée régulière syrienne alors qu'il venait de négocier avec le président Poutine la veille. Et donc, tout le monde sait sa capacité de réaction rapide parce qu'il a les pleins pouvoirs, parce qu'il a les moyens d'agir, que ce soit sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le plan commercial. D'ailleurs, toutes les menaces de sanctions qu'il brandit pour tout le monde, d'ailleurs, que ce soit envers la Chine, que ce soit envers la Russie, que ce soit envers les Européens ou les Africains, tout le monde sent qu'il y a un nouveau chef. Et c'est ça l'expression de la puissance dans les relations internationales. Où on est puissant, où on ne l'est pas. Et maintenant, pour les Africains qui observent tout cela, il faut peut-être agir toujours par anticipation que par réaction.
Voilà. Il nous reste une poignée de seconde, et Sadio, au regard des décisions prises dès son investiture et de la rapidité avec laquelle Donald Trump met en œuvre son programme, à quoi peut-on s'attendre pour ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche? Quels indicateurs permettront d'évaluer si ce début de mandat est un succès ou un tournant controversé? Rapidement, si vous pouvez.
Non, il faut attendre la fin des 100 premiers jours, je crois, pour savoir quelle importance, quel impact ça a eu, parce que il y a des décrets qui pourront être contestés par la justice, il y a des mesures qu'il ne pourra pas appliquer. Par exemple, les policiers qu'il a mis à la frontière mexicaine ne pourront pas interpeller les migrants, c'est pas leur rôle, et donc il y aura aussi beaucoup d'actions juridiques, et puis il faut, je crois, ça, je vais attendre la fin des 100 premiers jours.
Et voilà, point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos trois invités, Sadio Morel-Kanté, Amadou Cissé et Samuel Gembok. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à toutes nos radios et télépartenaires. Et bien évidemment, un grand merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous cette semaine. Nouveau rendez-vous dès jeudi prochain. Un grand merci à notre producteur Lionel Gaïma, Jacques Aristide, ici à Washington. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. Take care.